OK, si vous levez, on va lire aujourd'hui le chapitre 32 de la Genèse, les versets 24 à 32. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il lui répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, excusez-moi, je vais vous asseoir. Alors, on avait commencé la leçon, on n'avait pas terminé. On va essayer de terminer ce chapitre-là. On va juste faire une petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois, dans le but de pouvoir terminer cela aujourd'hui. On avait vu la lutte avec Dieu, le titre que j'avais donné au sermon, c'était « La lutte avec Dieu, le grand apprentissage pour Jacob ». Alors, on sait que Jacob avait eu des problèmes avec son frère Ésaü, et il s'était sauvé, et là, il s'en retourne. Dieu lui avait donné le commandement de retourner dans son pays, il lui avait promis qu'il serait avec lui, et c'est ça qu'on avait vu ça. Donc, le grand apprentissage, donc, durant les 20 ans qu'il a été dans le pays avec Laban, son beau-père, où il a connu ses deux femmes, où il a eu tous ses enfants, il a appris plein de choses. Alors, on l'appelait le supplanteur, parce qu'il avait tendance à être un petit peu malhonnête, comme on se rappelle. Alors, Dieu a pris ces 20 ans-là pour lui apprendre des choses. Là, il est en train de vouloir lui en apprendre d'autres, parce qu'il voulait retourner dans son pays, mais il y avait une frousse terrible de rencontrer Ésaü, son frère, parce qu'il avait eu beau essayer de l'amadouer en disant « je vais t'envoyer des animaux » et tout ça. Là, il savait, on lui avait dit que son Ésaü s'en revenait le rencontrer avec 400 hommes. Imaginez-vous, quelqu'un qui vous haït, qui s'en vient avec 400 hommes. Fait que c'est un petit peu normal qu'il ait peur. Mais d'un autre côté, il n'aurait pas dû avoir aussi peur. La simple raison, c'est que Dieu lui avait dit, « Je serai avec toi. » Quand Dieu nous dit, « Je serai avec toi », pourtant, il nous dit ça dans le Nouveau Testament aussi. Hein? « Je serai, je suis avec toi. » Puis on va manquer qu'on n'a pas pareil. Alors, ça nous montre une chose, c'est que même les serviteurs de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres qu'on va traverser à travers les Écritures, on se rend compte que l'être humain, ça fait partie de nous, on est comme ça nous aussi. On manque de confiance des fois au Seigneur, malgré ce qu'il nous a dit. Alors, on avait vu le grand apprentissage pour Jacob. J'avais parlé au cours des leçons précédentes l'importance de se souvenir de ce que Dieu avait dit auparavant. La rencontre de l'échelle, vous vous souvenez quand il s'était couché puis il avait vu l'échelle, les anges qui se promenaient sur l'échelle. Dieu lui avait fait des promesses. Alors on relit le passage parce que plus on se souvient du passage, plus on apprécie tout ce que Dieu a fait à Jacob depuis qu'il est rentré depuis qu'il est avec Laban, la rencontre avec ses épouses, la transformation de son caractère, le fait qu'il sorte de chez Laban avec sa fortune, ses épouses, et que lorsque son beau-père le rejoint, que la chicane dégénère pas en guerre et en sang, comme on dit. Alors déjà, Dieu a fait beaucoup pour lui, mais Dieu avait encore des choses à lui montrer. Alors, dans Genèse 28, au verset 13 à 15, on a cette promesse-là que Dieu avait fait plusieurs promesses. Il avait fait les promesses qui concernaient l'Alliance. L'Alliance, c'était le fait que Dieu enverrait un Messie un jour, et que par ce Messie-là, une multitude d'hommes seraient sauvés. Donc, il veut lui rappeler ça, la promesse que... Je t'ai fait une promesse qu'on va envoyer le Messie, et ça va arriver. Et il voulait lui faire des promesses personnelles aussi. Alors, on va lire les versets. « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, en parlant de l'échelle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Puis on a dit que la postérité, c'était, selon Galates 3:16, c'était qui? Jésus-Christ. OK. Dans le verset 15, là, il lui fait des promesses personnelles. Donc, la première promesse qu'il lui fait, c'est qu'il lui dit l'Alliance... Donc, le fait que je vais envoyer un Messie et que plein de nations, plein d'individus vont recevoir le salut à cause de Jésus-Christ, il lui fait cette promesse-là au moment de sa vision de l'échelle. Et là, dans le verset 15, il lui fait des promesses personnelles. C'est un peu comme si Dieu s'adressait à nous, chacun individuellement, puis dirait, je te fais des promesses à toi, pas à... 56 voisins, à toi, personnellement. Alors, c'est ça qu'il avait fait à Jacob. Et on va les reviser. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Donc, il y a cinq choses que Dieu lui promet personnellement à l'intérieur de ce verset-là. La première, c'est la présence divine. Je suis avec toi. Est-ce que si Dieu nous demandait des choses, puis Dieu nous disait « retourne dans ton pays » ou « fais ci » ou « fais ça », puis que Dieu nous disait personnellement « je suis avec toi », est-ce que ça ne devrait pas être une raison suffisante pour pas qu'on ait peur, puis qu'on se sente rassuré? Oui. Mais pourquoi il y a peur pareil? Ça nous montre que comme pécheurs, même si Dieu fait des promesses, toutes les promesses de Dieu sont toutes dans les Écritures. Il y en a un méchant lot de promesses. Comment ça se fait qu'on a peur pareil? Comment ça se fait qu'on ne lui fait pas confiance pareil? À cause de notre faiblesse, de notre misère. Et ensuite, il dit, « Je te garderai partout où tu iras. » Donc, Dieu lui avait promis qu'il le protégerait. Et là, il s'en allait rencontrer Ésaü, son frère, et il avait une peur noire que Ésaü vienne avec 400 hommes l'attaquer et le tuer. Et il lui avait dit aussi la direction divine. « Je te ramènerai dans ce pays. » Autrement dit, il n'avait pas besoin de se forcer parce que Dieu lui-même avait dit « Je te ramènerai dans ce pays où moi je veux que tu ailles. » Ensuite, on avait la soutenance divine. Il dit « Car je ne t'abandonnerai point. » Et la dernière, la fidélité divine que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Il lui fait les cinq promesses, puis il dit, inquiète-toi pas, tout ce que je viens de te promettre, ça va tout se réaliser, une en arrière de l'autre. Que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Donc, le premier apprentissage qu'on avait vu, c'était la nécessité que Dieu lui apprenne d'autres choses. Non seulement ce qu'il avait appris durant les 20 ans qu'il était avec Laban, mais que Dieu lui apprenne à faire confiance. Alors, la rencontre de l'homme avec qui il a lutté, c'était voulu par Dieu, parce que le Seigneur voulait lui montrer quelque chose. Et la plupart des commentateurs pensent que l'homme, c'était une théophanie, parce qu'il y a des passages qui disent, ils parlent de la rencontre du lutteur avec comme étant un homme. Il y a d'autres passages qui parlent de l'ange, donc ce serait un ange. Et l'autre passage qui dit, dans Osée, on avait vu que ça disait que c'était une théophanie, probablement Jésus-Christ incarné dans une chair d'homme, déjà à l'époque. Donc, le Seigneur voulait lui enseigner des choses importantes sur lui-même, pour qu'il apprenne des choses sur lui-même. Alors, on avait vu ces choses-là dans Osée 12. On va le reviser, Osée 12, parce que Osée 12, verset 3 à 6, ça dit « L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il punira Jacob à cause de ses voies. Il lui rendra selon ses œuvres. Dès le sein maternel, il supplanta son frère, et dans sa force, il lutta avec Dieu. » Voyez-vous, Osée vient nous dire une précision sur l'interprétation d'un passage qu'on est en train de lire dans Genèse. Parce que ça dit, « Dès le sein maternel, il supplanta son frère, et dans sa force, il lutta avec Dieu. » Il lutta avec l'ange. Donc, trois passages. Un, on parle d'un ange, l'autre, on parle d'un homme, l'autre, on parle de lutter avec Dieu lui-même. Comment c'est possible que les trois soient ensemble? Les trois soient vrais? La seule possibilité, c'est que c'était l'incarnation de Dieu dans une chair d'homme. L'homme qu'il a rencontré, c'était fort probablement une théophanie, donc l'apparition visible de Jésus incarné dans une chair d'homme. Et ça dit, « Et il fut le plus fort. Il pleura et lui demanda grâce. À Bethel, il le trouva, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. » Alors, autrement dit, si on prend les passages de Genèse et qu'on prend le passage d'Osée, qu'on met ça ensemble, on se rend compte que l'homme qui luttait, c'était à la fois un homme. Et quand on dit un ange, c'est souvent un envoyé. Donc, il était envoyé par Dieu lui-même pour lui enseigner des choses. Donc, les versets 25 à 30, on avait vu que Dieu avait des choses à lui montrer concernant sa nature. Les élus ont plusieurs choses à apprendre. Jacob a plusieurs choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre sur Dieu. Et dans le verset 25, on voit que l'Éternel domine sur la chair. Et verset 25, il dit, « Quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, ils ont lutté ensemble toute la nuit. » Puis, selon vous, est-ce qu'il y aurait eu de la difficulté à le vaincre s'il aurait utilisé toute sa force? Pas dur à répondre, hein? Si c'est Dieu incarné, s'il avait voulu, il l'aurait écrasé en train de le dire. Il dit, « Quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche, et la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. » Dieu, dans sa souveraineté, a voulu utiliser le moyen de démettre le muscle, on pense que c'est le nerf sciatique. Et si tu as le nerf sciatique démanché, je vais te dire une affaire, tu as de la misère à marcher. Il voulait lui montrer qu'il dominait la chair de l'homme. Il est capable de faire ce qu'il veut avec la chair des hommes. Donc, il y avait ça à apprendre. Il y avait aussi à apprendre que l'Éternel seul est la source de toute bénédiction. Parce que dans le verset 26, ça se dit, « Cet homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. » Mais il dit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Jacob, il a la tête dure. Il comprend, je pense qu'il commence à comprendre à qui il a affaire. Il dit, l'autre, il demande, « Laisse-moi aller. » Selon vous, y avait-tu besoin de la permission pour qu'il puisse s'en aller? Il aurait pu s'en aller sans aucun problème. Il dit, « Je ne te laisse... » Mais Jacob a la tête dure, il dit, « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Donc, il reconnaît que la personne avec qui il luttait, avait la capacité de le bénir. Donc, normalement, c'est celui qui est le plus fort qui bénit le plus faible. Troisième chose qu'il avait à apprendre dans le verset 27, c'est que l'Éternel est le révélateur de notre corruption et de notre déchéance. Pas pour rien là-dedans, je vous ai donné une feuille la semaine dernière qui parlait du nom. Parce que vous l'avez lu, sûrement que vous l'avez tout lu, je suis convaincu. Je vous regarde, vous l'avez vu. Juste à vous voir la face, je comprends que vous l'avez tout lu. Et il lui dit, Dieu, autrement dit, Dieu, l'incarnation de Jésus à l'intérieur d'une chair d'homme qui lutte avec Jacob, lui dit, Quel est ton nom? Selon vous, y avait-tu besoin de connaître son nom? Il connaissait son nom. Pourquoi il lui demande son nom? Pour lui révéler quelque chose sur sa personne. Quel est ton nom? Et lui, il répondit, mon nom, c'est Jacob. Puis comme par hasard, le mot Jacob veut dire supplanteur, tricheur, exploiteur. Alors, il veut lui faire prendre conscience qu'il est un pécheur et qu'il a des problèmes sérieux. Alors, en lui demandant son nom, il lui rappelle qu'il est un supplanteur, qu'il est un trompeur. Et la quatrième chose, dans le verset 28, la première partie du verset 28, Dieu veut lui enseigner que l'Éternel est souverain dans l'établissement de notre identité spirituelle. À partir du moment où on n'est pas sauvé, notre identité spirituelle, c'est que si on décède dans cet état-là, on s'en va en enfer pour l'éternité, on est des fils de la rébellion. On est des fils de Satan avant d'être sauvé. Donc, c'est l'Éternel qui détermine notre identité spirituelle. Parce qu'à partir du moment où il nous accorde sa grâce, notre identité spirituelle change. Nous devenons des fils de Dieu. Et non plus des fils du malin. On change d'identité. Qui est capable de changer notre identité spirituelle? Seulement Dieu. C'est pour ça que dans le verset 28, alors il dit, autrement dit, après lui avoir fait avouer son propre nom qui veut dire trompeur, il lui dit, maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qui veut dire qui lutte avec Dieu. Quand on est un chrétien, on commence à lutter avec Dieu dans le sens, on compare souvent la prière à une lutte. On a besoin de lutter pour prier parce que souvent, on n'est pas des prieux de nature, comme on dit. Dans notre fort intérieur, si on se laissait aller, on ne priera pas beaucoup. Mais à cause du fait qu'on est régénéré, c'est comme une seconde nature. Dès qu'on a un problème, souvent, on prend la prière comme dernier recours, et là, on s'adresse à Dieu pour régler nos problèmes. C'est normal qu'on s'adresse à lui, parce qu'il n'y a rien que lui est capable de régler nos problèmes. Et là, il lui dit, ton nom va changer, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. C'est à partir de ce moment-là que la nation d'Israël, donc Jacob, c'est comme le père, qu'on pourrait dire, de la nation d'Israël, dans le sens que Dieu a donné le nom d'Israël la première fois à Jacob. Parce que là, il lui dit pourquoi qu'il change son nom. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as vaincu. Quand tu luttes avec Dieu incarné, puis que tu le vainques, pourquoi que ça arrive? Parce que Dieu a bien voulu que ça arrive. Autrement dit, le Seigneur se laisse fléchir par ses... Nous, on est des créatures pleines de faiblesses. Pourtant, quand Dieu exauce une de nos prières, il se laisse fléchir par de la faiblesse. Lui qui est la force incarnée, pas incarnée, mais dans ce cas-là, c'était incarné, mais lui qui est la force infinie, il se laisse fléchir par ses enfants. Autrement dit, il nous écoute, puis des fois, il nous exauce, pas tout le temps. Il y a ses raisons pour lesquelles, des fois, il nous exauce, des fois, il nous exauce pas, des fois, il le reporte plus tard, toutes sortes de choses comme ça. Alors ici, il dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Si vous avez lu la semaine dernière, on dit qu'à l'époque biblique, le nom avait une importance fondamentale. Aujourd'hui, pourquoi moi, mes parents m'ont appelé Marcel? Aucune idée. Puis pourquoi ils vous ont appelé par votre prénom? Aucune idée non plus. C'est pas toujours basé sur le fait que votre personnalité reflétait le nom qu'on vous donnait. À l'époque, les Indiens, c'était comme ça. Hein? Ils appelaient, je sais pas moi, buffle sauvage. Et c'est parce qu'ils voyaient quelque chose dans le bébé qui reflétait un trait de son caractère ou un trait de ce qu'ils voyaient qui était pour arriver avec cet enfant-là. Maintenant, c'est plus ça. Mais à l'époque biblique, quand on donnait un nom à quelqu'un, le nom était profondément significatif. Il voulait dire quelque chose. Puis quand les noms changent dans les Écritures, de Abraham à Abraham, de Saraï à Sarah, et là on entend Jacob qui va aller dans Israël, c'est toujours extrêmement profondément significatif. Alors Dieu est en train de montrer à Jacob qu'il y a quelque chose de fondamental qui est changé en lui à partir de cette rencontre-là. Pourquoi? Le muscle, autrement dit, le muscle parce que qui a été démis, ça représente sa marche. Autrement dit, notre marche est toujours boiteuse parce que c'est Dieu qui permet qu'on n'a pas la force pour marcher comme du monde, comme on dit. Alors, quand on prend l'exemple de certains noms bibliques qui ont été changés, Abraham voulait dire « père élevé ». Donc, Abraham, avant que Dieu change son nom, voulait dire « père élevé ». Donc, il avait pris une personne qui l'avait sorti du pays, il l'avait emmené, il était déjà élevé aux yeux des hommes. Mais il était changé pour Abraham, et le mot Abraham veut dire « père d'une multitude ». On dit, souvent dans les Écritures, si vous prenez tous les passages où on parle d'Abraham, on parle souvent d'Abraham comme étant le père des croyants. C'est comme il est le modèle des croyants. Et quand on regarde l'ensemble de sa vie, par exemple, quand il a sacrifié son fils, Dieu lui demande de sacrifier son fils sur le bûcher et il accepte, si c'est pas ça un modèle de foi. Alors il prend le Abraham comme étant un modèle de foi. Quant à Saraï, ça voulait dire ma princesse. Et quand il l'a changé pour Sarah, ça voulait dire princesse d'une multitude. Ceux qui se souviennent de Naomi, ça voulait dire ma gracieuse, et a changé son nom pour Mara, qui était amertume. Autrement dit, elle était dans le pays, elle s'appelait Naomi, mais quand elle est allée dans le pays, elle est devenue amère. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ses fils, et là, elle a demandé à ses deux brus de la suivre. Alors, son nom a été changé parce que ça reflétait un changement dans son caractère. Le nouveau nom qui est donné à Jacob signifie donc « celui qui lutte avec Dieu » ou, ça peut vouloir dire aussi « Dieu est fort, Dieu triomphe ». Donc, ça, les deux idées. Celui qui lutte avec Dieu, c'est un peu le croyant qui commence à lutter avec Dieu aussi et que Dieu se laisse fléchir parce qu'il veut bien se laisser réfléchir à cause de notre relation avec Jésus-Christ. Et quand ça dit « Dieu est fort, Dieu triomphe », c'est que bien sûr, là, Dieu aurait pu, dans sa lutte, aurait pu l'écraser, mais Dieu veut juste lui montrer que c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui est souverain. Juste par un toucher, il a démis son muscle, comment il appelle, l'anaire sciatique. Dans le verset 29, on apprend quelque chose aussi, que le nom de l'Éternel est insondable. Parce que là, après que Dieu incarné lui a demandé quel est ton nom, il a dit Jacob, lui, il a voulu en retour savoir le nom de celui avec qui il luttait. Et Jacob l'interrogea et dit, « Apprends-moi ton nom, je te prie. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Il ne lui a pas dit son nom, mais il l'a béni là. Donc, c'est important que l'ange de l'Éternel ne révèle pas son nom à Jacob. Parce que les noms, à cette époque-là, connaître le nom d'une personne, c'était jusqu'à un certain point avoir une prise sur lui. Et Dieu, oui, reconnaît que le croyant a une prise sur lui, mais pas une prise en tout temps, en toute chose. C'est pas nous qui commandons à Dieu. Là. C'est nous qui reçoit les commandements de Dieu, non pas nous qui commandons à Dieu. Et dans le verset 30, on a une prise de conscience de Jacob à cause du nom qu'il donne à ce lieu-là, qui s'appelle, il dit lui-même, « Et Jacob nomma le lieu où s'est arrivée la lutte, Péniel, qui veut dire « face de Dieu ». Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. » dépendamment des versions qui vont dire sauvé. Autrement dit, les Écritures enseignent à d'autres endroits que quelqu'un qui voit Dieu face à face, il meurt. Et là, lui, il dit qu'il a vu Dieu face à face et il n'est pas mort. Alors, s'il n'est pas mort, c'est quoi? Puis que normalement, un être humain qui voit Dieu face à face meurt, c'est qu'il a reçu une grâce. Il se rend compte qu'il a reçu une grâce. Alors, il dit, il a appelé ce nom-là Péniel, qui signifie face de Dieu. Il est persuadé d'avoir vu Dieu face à face et il a la vie sauve. Bien sûr, le fait de voir Dieu faisait courir à l'homme un danger mortel. Et là, il faut aller voir d'autres passages des Écritures où on nous enseigne ce fait-là. Nous, là, ou n'importe quel être humain qui se verrait placé face à Dieu, face à face, là, il décède. Parce que c'est quelque chose de trop gros pour notre capacité. On n'est pas capable de prendre ça, à moins que Dieu nous accorde la grâce qu'on ne meure pas. Dans Exode, au chapitre 33, les versets 18 à 20, on va lire le passage et là, ça nous parle de ça. Et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et il dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Autrement dit, il y a des passages des Écritures qui disent que l'homme n'est pas capable de voir Dieu face à face et vivre. Et lui, ici, il reconnaît qu'il a vu Dieu face à face, puis il n'est pas mort. Quelle conclusion qu'il peut en tirer? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Autre chose, donc il a besoin d'apprendre des choses sur Dieu, et on a vu les différentes choses qu'il a besoin d'apprendre sur Dieu. Mais aussi l'élu a besoin d'apprendre des choses sur lui-même, sur notre caractère. Parce que ici, on a l'exemple de Jacob, mais on apprend que ça veut dire trompeur, supplanteur, charnel. Mais quand Dieu nous voit notre caractère, avant d'être sauvé, qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste que des imperfections. Il voit imperfection sur imperfection. Puis après qu'on est sauvé, est-ce qu'il voit encore des imperfections?
Oui.
Mais oui, il en voit encore plein, comme on dit. On se voit pas tel qu'on est aux yeux de Dieu, parce que si on se verrait... Moi, j'avais déjà lu ça quelque part, il disait que si Dieu permettait qu'on se voit tel que l'on est moralement, on mourrait de douleur et de chagrin. Autrement dit, plus on se voit tel que l'on est, plus ça fait mal. Vous remarquez ça? Dans votre vie, plus on se voit tel que l'on est moralement, plus on trouve qu'on fait dur et plus on trouve que Dieu est grand de nous donner plein de choses malgré cela. Donc, les élus doivent apprendre des choses sur eux-mêmes, sur notre caractère. On le sait que avant d'être sauvé, on était que chose inacceptable. Après qu'on est sauvé, ça change, oui. On se transforme, on s'améliore. Mais il reste encore plein de choses en nous que Dieu a besoin de changer. Alors, connaître, on a besoin d'apprendre qui Dieu est, qui est capable de faire, qu'il nous bénit, qu'il est le souverain et tout cela. Mais on a besoin d'apprendre aussi qui on est, nous autres. Plus on va se connaître, nous, plus on va connaître qui il est, lui, plus on va voir que la distance qui nous sépare est à la fois énorme et peu. On est à la fois loin et proche. On est loin dans le sens que plus on connaît notre misère, plus on connaît sa grandeur, mais aussi on connaît sa grâce qui nous aime malgré, à cause de Jésus-Christ, il nous aime malgré tout. Aussi, qu'est-ce que les élus ont besoin d'apprendre? Et c'est ce qu'il a appris ici à Jacob. Il a besoin d'apprendre le rôle et la puissance de la prière. N'est-ce pas qu'on a besoin d'apprendre ça? Ça prend du temps. Ça prend des années avant d'apprendre. Alors, des fois, Avec les années, Dieu nous exauce de toutes sortes de façons et il nous apprend que la puissance, la prière, c'est une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Selon les Écritures, ça dit une puissance efficace. C'est efficace, mais il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. C'est efficace, puis comment ça se fait qu'on ne prie pas plus que ça? Je viendrai m'expliquer ça. Selon vous, c'est quoi la raison? Parce qu'on est inconscient, parce qu'on ne croit pas ce que Dieu dit, et peut-être fort probablement beaucoup d'autres raisons. Donc, on a besoin d'apprendre aussi quelque chose sur notre force. Et notre force, elle est à quel niveau? Petite. Elle est petite, notre force. Mais celle de Dieu, elle, est énorme. On a besoin d'apprendre aussi sur notre faiblesse et notre dépendance de Dieu. Et on a besoin aussi d'apprendre notre besoin de bénédiction. Pourquoi il ne veut pas le laisser aller? Il dit, hey, va-t'en pas, j'ai besoin d'une bénédiction. Quelle bénédiction qu'il voulait avoir? Que mon frère ne me tue pas. C'était déjà une énorme bénédiction. Autre chose qu'on a besoin d'apprendre, c'est on a besoin d'importunité dans la prière. Ils ont lutté toute la nuit et ils ne lâchent pas prise, même si Dieu lui avait démis sa hanche, ils ne lâchent pas. Ça nous apprend quoi à nous? Que dans la prière, il ne faut jamais lâcher. Des fois, on dit, fait des années que je prie pour le salut de mon fils, fait des années que je prie pour le salut de ma fille, fait des années que je prie pour maman, papa, mon cousin, ma cousine, etc. Puis des fois, après des années, puis ça, je l'ai reconnu à plusieurs et plusieurs reprises dans ma vie chrétienne, après un certain temps, on arrête. On ne le demande plus. Ça, c'est-tu de l'importunité?
Non.
Mais Jacob, ici, nous donne un exemple. Que lui, même s'il a démis sa hanche, il a lutté toute la nuit. Imaginez-vous, tu as la hanche démise, tu luttes toute la nuit, t'as le lendemain matin, tu devais être brûlé, comme on dit. Mais il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu m'auras pas. Alors, l'importunité, on apprend là-dedans l'importunité. Et on apprend d'autres choses qu'on a besoin d'apprendre. Dieu nous apprend que les armes de notre combat, comme ça dit dans les Écritures, ne sont pas charnelles. Jacob avait essayé des machinations, il avait essayé des tromperies, des manigances, des stratagèmes, tout ça au cours de ses 20 ans avec son beau-père. Et Dieu lui a montré que c'est pas par ça que tu n'as pas vraiment de véritable victoire par ça. Dieu lui a montré que si au bout de 20 ans, il y avait les animaux que Dieu l'a permis qu'il ait. C'est pas parce qu'il avait mis des petites branches, puis que, tu sais, lui, il avait pensé que c'était à lui là, qui causait qu'il avait de la prospérité dans sa vie. Mais Dieu lui a montré, plus tard, que tout ce qui est arrivé, c'est parce que Dieu a bien voulu que ça arrive, et pas parce que c'est ses petites manigances. Mais nous aussi, on a besoin d'apprendre que c'est pas par nos manigances qu'on change quoi que ce soit. C'est Dieu qui travaille en arrière. Intéressant, moi, c'est un passage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé les premières fois que je l'ai lu, au point que ça m'amenait aux larmes. Pourquoi? L'histoire du roi Manassé, c'est le pire roi qu'Israël a connu, un pourri à l'os, comme on dit. Manassé, c'est un pourri à l'os. Et voyez-vous, quand on lit 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 12 et 13. Manassé, il avait été amené dans les chaînes à Babylone. Et c'était le roi le plus pourri qu'Israël avait jamais eu. Voici ce que ça dit. Et lorsqu'il fut dans l'angoisse, autrement dit, quand il était rendu à Babylone, ça l'a fait rentrer à l'intérieur de lui-même. Il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses supplications et Dieu fut fléchi par sa prière. C'est-tu beau, ça? Le roi le plus pourri d'Israël qu'il a jamais eu, il est rendu d'un chêne, il est rendu enchaîné, et là, il s'humilie devant Dieu, il reconnaît la grandeur de Dieu, il demande pardon, Et Dieu lui accorde son pardon. Si on ne se reconnaît pas un petit peu dans le menacé, là, j'en suis un menacé. On est tous des petits menacés. Et Dieu est fléchi par sa prière et exauça sa supplication. Et il le fit retourner à Jérusalem, dans son royaume, et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Le roi le plus pourri qui s'est éloigné, qui avait fait à peu près toutes les choses, les abominations possibles, il avait tombé dans la plus basse idolâtrie qui était possible d'aller dans, à cette époque-là. Dieu l'exauce, il permet qu'il retourne dans son pays, et là, enfin, il reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le troisième point, versets 31-32, on apprend que l'apprentissage que Dieu est en train de faire connaître à Jacob, c'est un apprentissage que Dieu voulait qu'il soit permanent. Non seulement qu'il l'apprenne lui individuellement, mais que l'ensemble du peuple d'Israël se souvienne à cause du muscle. Voyez-vous que ça dit dans le verset 31? Et le soleil se leva pour lui dès qu'il eut passé Péniel et il boitait de sa hanche. Autrement dit, le Seigneur nous fait prendre conscience que même notre marche chrétienne la meilleure va toujours être un petit peu boiteuse. Alors, Jacob va se souvenir le reste de sa vie qu'il n'est pas autonome dans sa marche spirituelle, mais qu'il doit se maintenir dans l'humilité, l'obéissance et la dépendance. Il va dépendre tout le temps de Dieu. Verset 32, lui, est intéressant. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, imaginez-vous, Jacob, ça lui est arrivé à lui, mais il faut croire qu'il a transmis les leçons qu'il avait apprises à la génération suivante et à tout le peuple d'Israël. Je suis certain que les Juifs font encore ça. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le muscle de la cuisse qui est à l'emboîture de la hanche, parce que cet homme toucha l'emboîture de la hanche de Jacob au muscle de la cuisse. Ce qui a été montré une fois à notre père Jacob sous une forme visible s'accomplira tous les jours en chacun des membres de l'Église. La lutte a servi à faire comprendre à Jacob qu'il ne l'emporte pas en raison de sa force, mais par la grâce divine qui lui permet de triompher. S'il triomphe sur ce personnage-là avec qui il est en train de lutter, c'est pas sa force personnelle, c'est Dieu, dans sa grâce, qui permet qu'il y ait une victoire. Alors, la même chose arrive pour nous. Alors, Jacob doit apprendre, comme Paul, que la grâce de Dieu suffit et que sa force, la force de Dieu, se réalise dans la faiblesse. La leçon, il faut faire la leçon du passage avec notre situation aujourd'hui dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et versets 7 à 10. Et de part, on se souvient que Paul avait eu une révélation. Il a été élevé jusqu'au troisième ciel, il a vu des choses, il a entendu des choses qu'il dit lui-même qu'il n'est pas possible de les répéter. Il est pas, comment qu'il voudrait, il n'est pas capable. Il dit, et de peur que je ne m'élevasse trop. Autrement dit, quand tu reçois une bénédiction de cette ampleur-là de la part de Dieu, il y a un danger à l'orgueil. Moi, ça, j'ai vu des choses que personne n'a vues, rien que moi, j'ai vu. Alors, tu es porté la tête pour que faire ça comme ça. Dieu permet que Paul ne s'élevasse pas, autrement dit, qu'il ne save pas le coco, à cause qu'il avait obtenu une grâce. Et il a permis qu'il ne s'enfle pas d'orgueil et il a choisi un moyen, celui de l'humiliation. Alors, ça dit, et de peur que je ne m'élevasse trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la charde, dans la chair, une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et là, Paul dit, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobes, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-tu merveilleux, ça? Autrement dit, plus Dieu permet qu'on se rende compte qu'on est faible, plus nous, on a le réflexe de savoir qu'on peut être fort, mais en Christ, par Christ. C'est merveilleux. Autrement dit, on n'a pas à être mal à l'aise d'être faible. Parce que ça dit, car lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Pas t'es fort en toi-même, par toi-même. T'es fort à cause de Christ. Puis plus on se rend compte de notre faiblesse, plus on se dit, ben moi, j'ai pas de force. Et la force, je vais aller la chercher où? En Christ. Alors, c'est des versets qui sont d'une profondeur à apprendre. Que plus on apprend qu'on est faible, mieux que c'est, dans le fond. Parce qu'on n'essayera pas de se défendre par notre propre force, on n'en a pas. Ou si peu. On va être porté à se fier à celle de Jésus-Christ. Alors, deux choses, deux applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui. Apprenons d'abord sur Dieu. Il est présent dans nos crises et dans nos difficultés. On voit dans la vie de Jacob, Dieu est présent dans ses crises. Pas la première crise qu'il traverse, là. La première, c'est quand il a quitté son beau-père, puis son beau-père s'est mis à courir après lui. Puis quelqu'un qui se sont rencontrés, ça aurait pu tourner en catastrophe. Dieu était présent. Il a permis que ça ne tourne pas en catastrophe. Là, il est en train de retourner dans son pays parce que Dieu lui a commandé. Il s'apprête à rencontrer une autre crise. Et il va être encore victorieux à cause de sa force. Non, à cause de la grâce de Dieu. Alors, Dieu se manifeste avec puissance. Et il nous bénit, et il nous équipe aussi pour nous aider à affronter nos difficultés. Deuxième chose qu'on se doit d'apprendre sur Dieu, c'est qu'il nous montre sa souveraineté en subordonnant notre chair à sa volonté. Il a démis le muscle de la hanche, alors il est en train de montrer que c'est lui qui est souverain sur ta marche chrétienne, sur ta chair, autrement dit. Il nous apprend l'humilité et la dépendance. Il nous montre aussi la puissance de la prière et notre devoir de s'en servir avec ferveur et persévérance. C'est peut-être notre petit problème, ça. Pas qu'on ne prie pas, mais il faut prier avec ferveur et il faut prier avec persévérance. Autrement dit, il ne faut pas lâcher la patate, comme on dit en québécois. Il faut vraiment revenir et ne pas lâcher. Qui d'entre nous n'a pas prié pendant des fois de... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Monique et d'Augustin. Monique, c'était la mère d'Augustin de Nippon, qui a vécu au 4e siècle, qui est devenu un grand docteur de l'Église, qui est connu, que tout le monde cherche à dire, à le mettre sur le bord, comme on dit, parce que c'est un grand théologien. Ben, c'était le pire bombe qu'il n'y avait pas dans le temps. Dans le temps, c'était un courroyeux de jupon, c'était un buveur, il y avait toutes les vices possibles imaginables. Dieu est venu le chercher, mais sa mère, Monique, elle a dit qu'elle a prié 25 ans. 25 ans, sans arrêt, pour son fils. Et quand Dieu a répondu, il n'a pas juste fait un chrétien avec, il a fait un des plus grands théologiens de tous les temps avec. Alors, quand on a des enfants, puis qu'on... Des fois, certains ont dit, ben là, lui, il n'y a rien à faire avec lui. Non. Il y a de quoi faire, puis Dieu peut le sauver. Et non seulement il peut le sauver, mais il peut en faire un grand serviteur. Ça, c'est merveilleux aussi. Hein? Autre chose qu'on se doit d'apprendre sur Dieu, c'est qu'il tient toujours ses promesses. Il a promis d'être présent, il a été présent, il a promis de protéger, il a protégé, il a promis de diriger. Il a dirigé, il a promis de le soutenir et d'être fidèle jusqu'à ce qu'il ait accompli toutes ces choses, et il l'a fait. Donc, il tient toujours ses promesses. Maintenant, on a des choses à apprendre sur Dieu, on vient de la voir, la liste. Maintenant, on a des choses à apprendre sur nous-mêmes. sur notre caractère. Si vous regardez votre vie passée, puis vous regardez comment vous étiez, moi, je n'ai pas de misère à m'en rappeler. Bon, c'était pas beau. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire avant d'être sauvé, c'était beau. On est tous pareils avant d'être sauvés. Donc, on a des choses à apprendre sur nous-mêmes, sur notre caractère, que le Seigneur a besoin de changer et que le Seigneur a besoin de transformer. Autre chose qu'on a besoin d'apprendre sur nous-mêmes, c'est sur le fait que notre force se manifeste dans la faiblesse et que notre force ne se trouve sa source qu'en lui. Autrement dit, comme chrétien, plus on apprend qu'on est faible, mieux que c'est. Parce que plus on connaît notre faiblesse, plus on va être porté à se fier sur la force qui est en Dieu, en Christ. On a aussi besoin d'apprendre la nécessité absolue de l'humilité et de la dépendance en toutes choses et en tout temps. On a de la misère avec ça. Parce qu'un des premiers péchés de l'homme, c'est l'orgueil. Puis les hommes n'aiment pas être dépendants. On va dire qu'on n'aime pas ça être dépendant de qui que ce soit. On aimerait ça être complètement indépendant. Puis quand on devient chrétien, il faut devenir dépendant. Il faut être humble. Alors notre problème, c'est qu'on a tendance à être orgueilleux, puis on a tendance à aimer l'indépendance. Alors que la Bible nous dit qu'on se doit d'être humble et qu'on se doit de réapprendre la dépendance à Dieu. Dépendre de lui en tout temps, en toute chose. Autre chose, on a besoin d'apprendre qu'on a d'énormes limites et on a besoin d'apprendre que nos armes à nous ne sont pas charnelles. Une des armes les plus puissantes du chrétien, c'est le travail de genoux, comme on dit. C'est là que tu es le plus puissant. C'est dans ta faiblesse que tu es le plus fort. Et dernière chose, on a besoin d'apprendre sur nous-mêmes qu'on a besoin de nous rappeler constamment les leçons que Dieu nous enseigne. Parce que c'est le dernier verset, le verset 32, qui nous apprend que non seulement Dieu a voulu apprendre la chose à Jacob, mais par le fait même que ça a été transmis aux Israélites, qui eux-mêmes aujourd'hui continuent à prendre ce muscle-là, parce qu'ils voient la main de Dieu à l'intérieur de cette leçon-là. Alors pratiquons ces choses et souvenons-nous-en pour sa plus grande gloire. Amen.
Amen.